Impossible de ne pas commencer par ce paradoxe. Raila Odinga, l'homme qui a profondément transformé la politique kényane, n'a pourtant jamais occupé la présidence. Tu ne trouves pas fascinant qu'il ait eu un tel impact alors que tant d'autres n'ont laissé que leur nom sur une plaque?
C'est vrai. Ce qui me frappe surtout, c'est sa capacité à mobiliser largement, même sans le pouvoir suprême. Il a toujours réussi à rassembler bien au-delà de sa propre communauté Luo, alors qu'au Kenya, la politique reste souvent piégée dans les clivages ethniques. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
Et il n'a pas ménagé ses efforts. Plusieurs candidatures présidentielles, des luttes acharnées contre la fraude électorale, il s'est forgé une image de défenseur délaissé pour compte. Pourtant, il venait lui-même d'un milieu privilégié. Tu imagines le grand écart?
Oui, et ce contraste entre son héritage familial et son engagement contre les inégalités, c'est ce qui rend son parcours si hors du commun. D'ailleurs, il a connu la prison, l'exil, il a payé cher ses convictions. Ça me rappelle à quel point il s'est toujours défini comme un révolutionnaire, mais avec un vrai pragmatisme, surtout sur la fin.
Ce qui m'a toujours interpellé, c'est son enfance entre héritage politique et exclusion, fils d'un des pères de l'indépendance, mais rejeté par l'élite quand son père a osé dire non à Kenyatta. Tu penses que ça a forgé sa méfiance envers le pouvoir central?
Je suis convaincu que oui. Être témoin de la mise à l'écart de sa propre famille, puis vivre l'emprisonnement de son père, ça ne peut que marquer. Et après son retour d'Allemagne, il aurait pu rester dans la sécurité d'un poste universitaire. Mais au contraire, il s'est jeté dans la bataille politique, quitte à y perdre sa liberté.
L'épisode du coup d'État manqué en 1982, c'est presque une histoire de roman. Accusé de trahison, emprisonné pendant 6 ans, il aurait pu arrêter là, mais il s'est entêté même après l'exil en Suède. C'est une détermination qui force le respect, non?
Absolument. Et ce que j'admire, c'est qu'il n'a jamais vraiment perdu de vue la réforme. Même après autant de revers, il a toujours placé la démocratisation au cœur de son action, là où d'autres auraient simplement cherché à préserver leur place.
Tu sais, la Constitution de 2010, c'est vraiment sa grande victoire. Décider de décentraliser un pouvoir jusque-là hypercentralisé, c'était presque révolutionnaire. Mais est-ce que tu dirais que ça a vraiment changé la donne pour les Kenyans ordinaires?
J'ai envie de dire que la symbolique était incroyable. Mais sur le terrain, les vieux réflexes ont la peau dure. La corruption et les manipulations politiques ont survécu à la nouvelle Constitution. Pourtant, ce texte a quand même offert plus de droits, plus de recours, et c'est loin d'être négligeable.
C'est clair, même si l'élan était là, les intérêts installés ont su se réinventer. Ce qui est fou, c'est qu'Odinga lui-même a dû finir par composer avec des alliances qu'il critiquait tant. Pas étonnant que son héritage soit débattu.
Justement, ça me fait penser à la poignée de main avec Kenyatta en 2018. Pour certains, c'était un geste de rassemblement. Pour d'autres, carrément une trahison. Comme quoi, même les héros de la réforme ne sont jamais épargnés par les contradictions.
Ce compromis avec Ruto en 2025, eh bien, franchement, personne ne s'y attendait. Après avoir incarné l'opposition pendant des décennies, Odinga a fini par soutenir un gouvernement qu'il avait tant critiqué. Tu crois qu'il avait encore le choix à ce stade?
Honnêtement, j'ai l'impression qu'entre la fatigue, les échecs électoraux et la pression d'une jeunesse désabusée, il s'est retrouvé sans vraie alternative. Mais c'est tragique, parce qu'il donnait l'impression de tourner le dos à ceux qu'il défendait depuis toujours.
Le plus ironique, c'est qu'à force de compromis, il a perdu une partie de sa base, sans jamais accéder à la présidence. Pourtant, personne ne peut nier qu'il a laissé une empreinte énorme. Même ses adversaires vont devoir composer avec son ombre.
C'est exactement ça. Et tu sais, au final, peut être que son plus grand héritage, c'est d'avoir forcé tout le système politique à s'ouvrir, même partiellement, au peuple. Malgré ses failles, il reste une référence, un repère pour ceux qui pensent que la politique peut encore servir à quelque chose.